Quand j'étais adolescent, j'ai lu un livre passionnant qui m'a beaucoup impressionné, surtout qu'il racontait une histoire vraie. Il s'appelait « Le lion mangeur d'hommes ». Si j'entends information qu'un animal féroce s'est échappé du zoo et se balade dans mon quartier, je prendrai mes précautions. La peur est un sentiment normal et protecteur. Quand je suis sur le toit pour ramener ma cheminée, je ne suis pas très rassuré et j'y vais mollo pour éviter de faire un faux mouvement et de me casser la figure. Certains d'entre nous ont aussi des peurs irrationnelles comme prendre l'avion ou l'ascenseur. Comment je leur fais face en dit long sur mon caractère. Si je m'efforce d'éviter les situations désagréables à tout prix, je suis un poltron. Mais si, malgré mes sueurs froides, je monte dans l'avion, c'est que j'aurai dominé mes sentiments de peur, même si je serre les dents et que je me cramponne quand c'est le moment de décoller. La maîtrise de soi fait partie du courage. Je continue à lire dans le premier chapitre de la seconde épître de Paul à Timothée. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Verset 7. Littéralement, l'apôtre dit « Pas donné à nous, Dieu, un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et de discipline. » Le verbe « donner » est à un temps qui signifie que l'action a été accomplie dans le passé. Dieu accepte très mal que nous voulions nous dérober à nos responsabilités. Timothée devait être quelque peu timoré pour que son père spirituel lui rappelle qu'il a reçu une fois pour toutes la possibilité d'être toujours fort, aimant, réfléchi et maître de lui. Je me suis déjà demandé ce que je ferais si j'étais forcé de prendre position pour ou contre Jésus-Christ, sachant que dans le premier cas, j'y laisserais ma peau et dans le second, j'aurais la vie sauve. Je ne vais pas gonfler la poitrine et proclamer haut et fort comme l'apôtre Pierre, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas !» Néanmoins, au lieu de me torturer l'esprit, je dois croire que, si nécessaire, le Seigneur m'accordera son aide en temps voulu. Il a dit à ses apôtres, « Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre Père qui parlera par votre bouche. » Tout à la fin du 19e siècle, les Chinois se révoltèrent contre les puissances coloniales et la société secrète, les Boxeurs, dirigea une campagne de terreur contre les personnalités étrangères et les chrétiens. Pendant cette courte guerre, ils encerclèrent un poste missionnaire de 100 personnes et ne laissèrent qu'une issue possible devant laquelle ils tracèrent une croix. Tout le monde fut informé que ceux qui marcheraient sur la croix pourraient partir en paix, mais que ceux qui l'éviteraient seraient sommairement exécutés. Les 7 premiers se plièrent et eurent la vie sauve. Vint alors une jeune fille qui s'approcha de la croix, se mit à genoux, pria, puis contourna soigneusement la croix. Elle fut aussitôt abattue. Tous les autres, encouragés par son courage, firent comme elle et furent massacré. Paul exhorte Timothée à manifester le triumvirat spirituel, puissance, amour et discipline. Mais tout croyant doit faire de même et montrer de la discipline dans sa vie personnelle, témoigner de l'amour aux autres et agir de manière à être efficace dans le service de Dieu. Je continue le texte. « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur, n'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. » Verset 8. Un jour, un notaire ouvrit le testament d'un de ses clients et y trouva un document qui disait « À mon fils, je lègue le plaisir de gagner sa vie. Pendant 25 ans, il a cru que le plaisir était pour moi. Il se trompait. » Fin de citation. Pareillement, le Père Céleste n'offre pas un lit de rose à ses enfants pour qu'ils s'y prélassent et attendent que le temps passe. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a du courant, des écueils, des remous, des chutes, des cascades et même des tempêtes. J'ai déjà dit que ce n'est pas parce que quelqu'un a placé sa confiance en Jésus-Christ qu'il ne connaîtra pas d'épreuves, de détresse et de catastrophes durant sa vie. Comme tout être humain, il aura des problèmes de tous ordres et tôt ou tard, il sera victime du mal sous une forme ou sous une autre, la maladie, un accident, le décès d'un être proche, puis sa propre mort. De plus, s'il témoigne pour Jésus-Christ, il s'attirera d'autres ennuis. Au minimum, il devra subir le sourire narquois des opposants au christianisme et à la parole de Dieu, et sans doute le rejet par des amis ou des membres de sa famille. Et dans certains endroits de la planète, les croyants ont beaucoup à perdre, y compris leur vie. Jésus a dit à ses disciples, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Quand Paul écrit cette deuxième épître à Timothée, être chrétien était une pratique dangereuse. Ceux qui étaient emprisonnés finissaient crucifiés en pâture aux lions ou sous la hache du bourreau. Ce qui a fait de Paul un géant de la foi est qu'il considérait toujours les circonstances de sa vie selon la perspective céleste. Ici, il se définit comme le prisonnier du Seigneur et non pas de Rome ou de Néron. En d'autres mots, c'était Dieu qui l'avait fait échouer dans cette galère pour accomplir ses objectifs à sa gloire. Sachant cela, l'apôtre pouvait se réjouir de sa situation qui pourtant, à vue humaine, était particulièrement déprimante. Je continue le texte. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Verset 9. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a planifié le sauvetage de l'humanité, le plan du salut. Il appelle aussi les croyants à mener une vie sainte, éventuellement à la vie éternelle dans la sainteté. Ailleurs, Paul écrit, « En Jésus-Christ, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » L'apôtre Pierre dit pareil quand il écrit « Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. » Tout ce que Dieu fait en faveur des hommes est dû à sa grâce. Ça ne dépend jamais, au grand jamais, de quoi que ce soit que vous ou moi pourrions accomplir en rite ou en œuvre. Et il faut bien comprendre que si je me permets d'y rajouter mon grain de sel, j'offense Dieu. En termes humains, on pourrait dire que je le vexe. Le plus étonnant dans ce que dit Paul est que la destinée éternelle des croyants fut décidée et arrêtée avant que le monde ne soit créé. D'accord, c'est choquant, mais que puis-je y faire? J'ai deux solutions, soit ruer dans les brancards ou rendre grâce à Dieu pour sa grâce et son amour pour moi. Je continue le texte. Et maintenant, la grâce a été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Verset 10. Le plan que Dieu a conçu de toute éternité a été révélé par la venue du Sauveur qui a brisé la puissance de la mort. Ce verbe « briser » signifie « rendre inopérant ». Ce n'est pas que la mort n'existe plus, évidemment. D'ailleurs, quand Paul écrit ces lignes, il est dans le couloir de la mort et attend son heure. Il dit ici que pour les croyants, ce n'est plus le trou noir, la fin des fins, l'ennemi invincible. Pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, il n'y a plus de jugement et de mort éternelle, qui est la séparation définitive entre l'homme et son Créateur. Dieu est satisfait par le sacrifice que Jésus a offert pour racheter l'humanité. La question qui se pose encore est donc, ce sacrifice vous convient-il? Le sang que le Christ a versé pour le pardon de vos péchés est-il suffisant pour vous? Ou essayez-vous de vous sauver vous-même, de vous racheter avec des rites et des bonnes œuvres? J'ai déjà dit que l'homme ne peut trouver le salut par une parfaite obéissance à Dieu parce qu'il en est incapable. Et il ne peut pas être sauvé par une obéissance imparfaite parce que Dieu ne l'accepte pas. Paul écrit que c'est au moment de la venue du Christ que Dieu a choisi de révéler complètement tout ce qui concerne le plan du salut, ce qui se passe dans l'au-delà et en particulier l'immortalité de l'âme et la réalité de la vie éternelle. L'Ancien Testament ne donne que des bribes de révélations sur ce sujet et mis bout à bout, ces informations restent bien maigres. Je continue le texte. C'est pour annoncer cette bonne nouvelle que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Verset 11. Paul rappelle une fois encore à Timothée, à l'église d'Éphèse et à tous les hommes de toutes les époques qui viendront après lui que Dieu l'a choisi et ordonné apôtre pour prêcher et enseigner. Un apôtre parle avec l'autorité divine et un prédicateur est un héros. Quelqu'un qui proclame de la part des autorités un message au peuple. Saul de Tarse, le nom de Paul avant qu'il ne rencontre le Christ ressuscité, n'avait aucune intention de devenir chrétien. Bien au contraire. C'était un bourreau et un homme violent qui avait monté une inquisition avant l'heure contre l'Église naissante. Après sa conversion, ni lui, ni aucun agent humain n'a décidé qu'il serait un ambassadeur pour le Seigneur. C'est Jésus qui a pris cette décision. Il a dit au disciple Ananias, « J'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. » Au premier ancien de l'église d'Éphèse, Paul a dit, « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Je continue le texte. « C'est aussi la raison de mes souffrances présentes, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance » et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Verset 12. Parce que Paul avait été choisi pour annoncer la bonne nouvelle, il était persécuté. Mais ça ne le gênait guère. Il savait qu'il serait exécuté, mais il n'en avait que faire. Ailleurs, il dit, « Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. » Paul était dans le couloir de la mort à cause de Jésus, mais il ne regrettait rien. Il n'avait pas honte d'être l'ambassadeur du Christ. D'ailleurs, il écrit « Je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. » Dans sa première lettre, Paul dit à Timothée « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici, en prison, pour sa cause. » Paul n'était pas dupe, mais tout ce qu'il y a de plus sensé. Il avait misé sa vie et l'éternité sur le Christ et pouvait dire la tête haute et avec conviction, « Je sais en qui j'ai mis ma confiance. » Il savait avec certitude, il était convaincu sans l'ombre d'un doute, c'est ce que veut dire le verbe « je sais ». Paul savait aussi que Dieu est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Ce verbe « garder » était un terme militaire. Le soldat romain devait garder au péril de sa vie ce qui lui était confié. On ne plaisantait pas dans la Légion. Paul avait expérimenté des tentations, des épreuves de tous ordres, beaucoup d'opportunités, mais aussi des privations sans fin. Il savait que, quoi qu'il arrive, il pouvait compter sur Dieu. Le texte dit littéralement « Dieu a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là ». Plus loin, Paul précise que ce jour-là est sa comparution devant le jugement du Christ. Ce dépôt correspond à tout ce que l'apôtre avait reçu de Dieu, comme ses dons spirituels, ses talents naturels, son arrière-plan juif, tout quoi. Ses ressources étaient un investissement que Dieu avait fait en lui. Et de ce fait, il était redevable à tous les païens de l'Empire romain, qui étaient le territoire où il devait annoncer la bonne nouvelle. Pareillement, les croyants ont une dette vis-à-vis de Dieu qu'ils doivent acquitter envers le monde. Ils ont la responsabilité de faire connaître la personne de Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Je continue le texte. « Tu as entendu de moi des paroles de vérité, faisant ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. » Verset 13. Les écrits de Paul, comme le reste des Écritures, sont inspirés de Dieu. Ils sont vrais tels qu'ils sont. Il n'y a rien à leur ajouter et rien à leur retrancher comme font les sectes. Tout ce que Dieu a révélé dans sa parole est la vérité absolue et parfaite. En particulier, la personne du Christ et son œuvre sur la croix doivent être annoncées à tous les êtres humains, mais avec amour, douceur et compassion, et en croyant que Dieu va utiliser ce témoignage pour sauver des âmes. La plupart des gens qui disent être chrétiens n'ont pas de réelles convictions théologiques. Pire, ils pensent même que croire dans le caractère absolu des Écritures est une attitude froide et dure qui entraîne des discordes et séparations et qui donc n'est pas chrétienne. C'est le comble. Plus loin dans cet épître, Paul écrit « Le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Eh bien, ce temps est déjà là. Je continue le texte. « Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. » Verset 14. Ce bien précieux, ce sont les paroles de vérité que Timothée avait entendues de l'apôtre. Il s'agit en premier lieu de tout ce qui concerne la foi chrétienne et par extension de l'ensemble des Écritures. C'est grâce à l'action du Saint-Esprit qu'un croyant gardera intact ce bien précieux malgré les difficultés qui peuvent être sévères. Cette fidélité dans l'épreuve prouve qu'il est vraiment un enfant de Dieu. Calvin appelait cette constance la persévérance des saints. Dieu garde ceux qui ont fait confiance en Jésus et eux gardent et annoncent les vérités qu'ils ont reçues de lui. Je continue le texte. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Verset 15. La province romaine d'Asie était située dans le nord-ouest de la Turquie actuelle et avait Éphèse pour métropole. Quand l'apôtre a été fait prisonnier, tous ses compagnons d'Asie ont pris la fuite. Ils ont eu honte de se déclarer chrétiens, de s'identifier à lui et ainsi risquer leur tête. Cet abandon du navire en pleine tempête a dû faire beaucoup de peine à Paul, bien plus que le cachot froid, humide et nauséabond où il était enfermé avant de subir le martyre. Ses faux amis avaient été les disciples puis les collaborateurs de l'apôtre. Ils se trouvaient à Rome, mais quand ils ont appris que Paul avait été arrêté et qu'il serait exécuté, ils se sont dit que ça commençait à sentir le roussi et ils ont tous pris la poudre d'escampette. Ils ont abandonné l'apôtre à son triste sort au moment où il avait le plus besoin d'aide matérielle et de soutien affectif. Moi, à sa place, ça m'aurait arraché les tripes. On ne sait rien des deux hommes mentionnés, Phygèle et Hermogène. Il est cependant évident que Timothée les connaissait et qu'à un certain moment, ils étaient proches de l'apôtre, voire même des leaders. Qui aurait pu se douter que c'était des lâches, des ingrats, et que face aux épreuves, ils retourneraient ainsi leur veste? Bien que Paul ne leur tenait pas personnellement rigueur de cette trahison, il ne passe pas pour autant leur défection sous silence. Dans sa première lettre, il avait écrit à Timothée « Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela inspire de la crainte aux autres. » Je finis le premier chapitre. Quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa bonté à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire, Dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et il a fini par me trouver. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la bonté du Seigneur au jour du jugement. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Versets 16 à 18. Onésiphore était originaire d'Éphèse et connaissait Paul de longue date. Preuve en est qu'il avait déjà été une aide précieuse à l'apôtre quand il exerçait son ministère dans cette ville. Onésiphore se trouvait probablement à Rome pour ses affaires, mais ayant appris que Paul était incarcéré, il a remué ciel et terre jusqu'à ce qu'il le trouve. Il faut savoir qu'à cette époque, les familles des prisonniers n'étaient pas tenues au courant de l'endroit où se trouvaient leurs parents, ni du sort qui lui était réservé. Non seulement les prisonniers étaient entassés dans des conditions de vie abominables, mais au niveau des repas, ce n'était pas la joie non plus. Alors c'était la famille ou les amis qui venaient leur apporter de quoi subvenir à leurs besoins. Onésiphore fut comme un ange envoyé du ciel pour soutenir l'apôtre Paul dans ses heures les plus sombres. Dieu ne l'avait pas oublié et il ne nous oubliera pas non plus quand nous devrons traverser la vallée de la mort.